Studio Tamani, voici nos informations en français.
Nous sommes vendredi le 14 août 2020. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition matinale. Bonjour et bienvenue. Au moins 15 personnes, dont des militaires, ont trouvé la mort dans des attaques à l'intérieur du pays. Au même moment, les groupes terroristes s'affrontent au nord pour le contrôle de la zone de Gourma. Crise sociopolitique, si le médiateur de la CEDEAO invite le président à dialoguer avec les responsables du M5-RFP, ces derniers, quant à eux, posent des conditions. Notre dossier culture parle du port du turban. Si ces tournements jadis étaient portés par des jeunes hommes en âge de se marier, de nos jours, certains le portent par simple plaisir. Point complet de ces titres tout de suite avec Moumine Sendebou, mise en onde Gagné Kanti. L'insécurité reste toujours récurrente au nord et au centre du pays. Des attaques ont fait ces derniers jours plus de 15 morts, dont des militaires à l'intérieur du pays. Ces incidents interviennent au moment où les groupes terroristes s'affrontent au nord pour le contrôle de la zone de Gourma. Les détails avec Intala Akbilal.
C'est mercredi à Banyangara, des cultivateurs du village de Sceaux dans la commune de Timinili ont été pris pour cible par des hommes armés non identifiés. Selon un élu local, les assaillants ont fait de nombreux aller-retour dans la localité. Le bilan est de 3 morts et de plusieurs blessés. À Koro, une attaque du village de Koromantiti a fait ce jeudi 4 morts et de nombreux blessés. Des sources locales rapportent qu'après leur forfait, les bandits sont répartis avec 7 motos et des biens précieux des villageois. Toujours dans le cercle de Koro, des hommes armés ont fait exploser une école la semaine dernière. Les faits se sont déroulés à Tonou dans la commune de Dinangourou. Selon des témoins, des inconnus ont complètement détruit l'unique établissement scolaire de la localité à l'aide des bombes artisanales. Les mêmes sources indiquent que les assaillants menacent qu'ils n'épargneront aucun bien étatique. Au nord du pays, des hommes armés multiplient des opérations de vol, d'enlèvement, d'intimidation et de brigandage à travers les villes et villages du cercle et surtout sur la route nationale 33 reliant Tonka à Tombouctou. Ces événements interviennent au moment où le Gourma devient le nouveau théâtre d'affrontement des groupes terroristes. Des sources locales affirment qu'une dizaine de djihadistes ont été tués ces deux derniers jours lors du combat entre l'État islamique au Grand Sahara et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans.
Selon des experts des questions sécuritaires, les 10 groupes rivaux, Jessima et EIG, s'affrontent pour le contrôle effectif de cette zone qui s'étend entre les régions de Tombouctou, Gao, Mopti et Menaka. Des sources locales affirment qu'il y a eu des dizaines de morts de tous les côtés. Cette belligérance des groupes terroristes pourrait-elle être bénéfique pour l'État? Mamadou Djouara, chef du cabinet Gaïa, répond à la question.
Cet affrontement ne saurait en aucune manière jouer en faveur de l'État malien, pour la simple raison que cet affrontement se caractérise d'abord par la présence significative des deux groupes sur le territoire. C'est aussi l'expression de la volonté effective d'occupation et de contrôle territorial par ces groupes de la zone du Gourma. Toute chose qui démontre que le Gourma est un enjeu stratégique pour ces groupes. Il faut donc renforcer rapidement le dispositif de défense et de sécurité, impliquer les forces fluviales de la gendarmerie dans l'opération, parce que c'est une zone très inondée, mais à côté d'elle, il faut avoir aussi un dispositif militaire assez conséquent, capable de faire face à la puissance de feu des terroristes, mais il faut renforcer aussi la proximité des forces de sécurité, mais dans une proximité telle que peu d'informations peuvent les échapper.
8 heures passées de 3 minutes. Retrouvez ces informations en consultant nos statuts WhatsApp au 76 62 88 51 ou appelez gratuitement sur Viamo au 37 321. Elles sont également disponibles sur nos pages Facebook et Twitter. Je le disais tantôt, crise sociopolitique. Le médiateur de la CEDEAO propose au président Ibeka de rencontrer le mouvement du 5 juin pour un dialogue franc et direct. Mais le M5-RF pose des conditions à cette éventuelle rencontre avec le chef de l'État. Pour le regroupement, il faut que lumière soit faite d'abord sur les tueries des événements du 10, 11 et 12 juillet dernier. Maître Mohamed Ali Bachili, membre du comité stratégique du M5-RFP, est joint par Moussa Mali Sissoko.
Ce n'est pas le chef de l'État qui nous a demandé de le rencontrer d'abord. C'est le médiateur qui nous a fait parvenir un message hier en fin d'après-midi que nous avons été informés qu'il voulait nous rencontrer. Il faut qu'il y ait des préalables à une rencontre. Si c'est la violence qui est la solution, on ne va pas rencontrer quelqu'un qui a tout ça sur les bras. Alors, si la vidéo intervient, que la vidéo dise tout simplement à M. Ibrahim Boubacar Keïta, ça, c'est pas des méthodes. Moi, je ne dis pas que nous n'allons pas le rencontrer. On n'est pas fermé à une rencontre. Le principe est là. C'est la façon de dire cela qui nous étonne. Et ça fait en sorte que vous n'entendez pas cela. Vous croyez qu'on ne peut le voir que pour discuter de ce que lui il veut et non de ce que nous voulons. Mais nous, on veut bien le voir aussi. Et on veut le voir pour qu'on discute avec lui des conditions de sa démission.
Sur un tout autre sujet, la rédaction de Studio Tamani s'intéresse aujourd'hui aux bienfaits du citron. En plus d'être riche en vitamine C, le citron a des vertus médicales. Cependant, selon des spécialistes de la santé, son utilisation abusive peut aussi avoir des conséquences négatives. Plus de détails dans ce reportage de Halima Yatara.
Très prisé dans l'alimentation, beaucoup de Maliens disent utiliser le citron pour son odeur et son goût dans les tisanes. Des consommateurs estiment également que ça facilite la digestion et contribue également à la perte de poids. Écoutons des réactions.
Quand je prends du citron, ça me facilite la digestion. Le goût aussi est agréable. C'est les deux conditions qui font que je l'utilise.
J'aime du citron, je veux me maigrir contre mon ventre aussi. Je veux que ça décasse un peu. Donc c'est pour cela que je mange du citron.
Toutefois, des nutritionnistes estiment que le citron contient plutôt des antioxydants qui éliminent les toxines présentes dans le corps. Docteur Ibrahima Sissoukou.
Le citron est très riche en antioxydants et en vitamine C. Et cette richesse permet au citron de stimuler notre système immunitaire. Quelqu'un qui consomme du citron aura son système immunitaire stimulé. Le citron va éliminer les toxines qui sont présentes dans notre corps. Pas parce que le citron fait maigrir proprement dit.
Malgré les bienfaits du citron, l'excès de consommation du citron peut conduire à des brûlures d'estomac, précise Dr Sissoukou.
Le citron a aussi des inconvénients. Les inconvénients peuvent se résumer surtout au niveau gastrique. Les gens qui souffrent d'ulcère gastro-duodénal, qu'on appelle en bambara fourbine, lorsqu'ils consomment du citron, ils peuvent avoir des brûlures d'estomac. Il est bien de consommer le citron, mais de façon modérée. On conseille de ne pas dépasser 2 citrons en 2 litres d'eau.
Il faut souligner que selon des études, consommer uniquement de l'eau citronnée pendant plusieurs jours peut provoquer un déficit calorique.
Un zoom à présent sur le port du turban. Si à Tombouctou, il est notamment attribué au jeune en âge de se marier comme signe de responsabilité, à Bamako, certains le portent par plaisir. Le point avec Fatima Touré.
Selon des notables de Tombouctou, le turban est considéré comme un diplôme décerné à certaines étapes de la vie. Baba Sekou Alamine Sissé est le cheikh Al-Mahda de la grande mosquée de Tombouctou.
Montrer que la personne elle est majeure. Il peut subvenir lui-même à ses besoins. Il peut se marier. Partant de ça, on fait la cérémonie de turban. Ce n'est pas un turban simple seulement pour orner, non. Mais c'est le nom de Dieu qui est sur sa tête à l'or.
Certains aussi considèrent le turban comme un héritage familial. C'est le cas d'El Habib Ben Wahab, ressortissant de Tombouctou.
Généralement, je porte ça quand je pars à la prière du vendredi. De lutter aussi contre les poussières, le soleil et aussi pour le plaisir. Cela est considéré comme une sunna. Et là d'où je viens aussi, nous sommes nés et grandis dedans. On est venu trouver nos grands-parents et parents porter le turban. On est obligé de continuer avec ça.
À Bamako aussi, de nombreuses personnes utilisent le turban pour différentes raisons. Pour le chauffeur de taxi Amadou Doumbia, c'est par plaisir qu'il le fait.
Parce que ça me plaît, c'est pour cela que je porte, pour me faire déguiser et pour ressembler aux nordistes.
Rappelons aussi que dans ce contexte marqué par le coronavirus, certains portent le turban pour se protéger contre la COVID-19.
Situation de la COVID-19 à la date du jeudi 13 août. Les autorités sanitaires ont enregistré 15 nouveaux cas positifs, 2 guérisons et 0 décès. La situation cumulée est de 2597 cas positifs, 1979 guérisons et 125 décès. Suivons à présent notre bulletin d'information sur la COVID-19. C'est un plaisir de vous retrouver pour ActiCovid. Ce matin, votre bulletin s'intéresse aux personnes vivant avec le VIH-Sida pour renforcer le suivi communautaire de l'accès de ces personnes au traitement ainsi que leur protection dans le contexte de coronavirus. Le bureau ONU-Sida Mali les a octroyé plus de 9 millions de francs CFA. Cette donation a été remise la semaine dernière au réseau malien des associations de personnes vivant avec le VIH. Les bénéficiaires apprécient ce geste, mais ils estiment que des efforts restent à faire. Khalifa Goïta nous fait le point.
Cet appui du bureau de ONU-Sida Mali a permis au réseau malien des associations des personnes vivant avec le VIH d'acquérir 5000 masques de protection et 600 flacons de gel hydroalcoolique. Pour les responsables du RMAP, la remise symbolique de ces kits de protection contre la COVID-19 est gage d'espoir. Modibo Kané, directeur exécutif de RMAP.
ONU-Sida a toujours été un partenaire. Aujourd'hui encore, ils se sont manifestés. C'est un sentiment de joie et d'espoir.
Toutes les personnes vivant avec le VIH doivent respecter les mesures barrières afin de minimiser leur exposition au coronavirus et d'éviter toute infection. Ajoute pour sa part la présidente du réseau malien des associations des personnes vivant avec le sida. L'organisation sollicite l'accompagnement des autorités. Fatoumata Diara, présidente du dit réseau.
C'est une maladie à prendre au sérieux puisque les PVVH sont un terrain immunodéprimé par conséquent très vulnérable aux agressions extérieures, notamment le coronavirus. C'est quelque chose dont on a besoin et qu'on est en train de demander il y a à peu près 3 mois. Il faut que tous les patients VIH puissent bénéficier de ce kit-là. Donc on attend à ce que les filles également nous en donnent.
Rappelons qu'à Ségou, un atelier d'information sur la COVID-19 a été organisé la semaine dernière à l'intention des personnes vivant avec le VIH.
À la date du 12 août 2020, l'OMS annonce que plus d'un million de personnes sont touchées par la maladie à coronavirus en Afrique. Elle note la guérison de plus de 759 000 malades. Par contre, le continent enregistre 23 000 décès.
Le saviez-vous?
Depuis plusieurs mois, de nombreux pays sont dans la course pour la recherche d'un vaccin contre le nouveau coronavirus. La Russie a annoncé mardi dernier avoir trouvé suffisamment. Pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré en Russie, a déclaré le président russe Vladimir Poutine. Quelques heures après cette annonce, le pays a reçu une commande d'un milliard de doses de 20 pays, dont le Kenya en Afrique de l'Est. Par contre, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et plusieurs scientifiques émettent des réserves quant à l'efficacité de ce nouveau vaccin. Pour eux, la prudence doit être de mise. C'est sur ce point qu'on se quitte à la semaine prochaine pour un autre numéro d'ActiCovid.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Nous poursuivons cette édition avec un tour dans la région. L'ambassadeur du Danemark au Mali s'est rendu ce mercredi dans la région de Ségou. L'objectif était de visiter les écoles et les centres de santé équipés par l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales en partenariat avec le Royaume du Danemark. La visite a eu lieu précisément dans les communes de Ségou, Sébourou et Pelengana. Une rencontre sur la lutte contre les violences sur les enfants et leur protection contre la maladie à coronavirus s'est tenue ce jeudi à Massina. Cette initiative de l'ONG Coopération internationale en partenariat avec l'Union européenne. Dans le cercle de Koro, plus d'une vingtaine d'ambassadeurs de la paix de la commune de Yoro prennent part depuis ce mercredi à un atelier sur le renforcement de la résilience des communautés du centre du Mali. Selon les organisateurs, l'objectif vise à outiller les participants pour faire face à l'insécurité dans la localité. Cette rencontre, qui va durer 5 jours, a été organisée par Church for Common Ground. Et c'est ce qui boucle ce journal. Merci de l'avoir suivi et de rester fidèle au programme de Studio Tamani. Dans un instant, le magazine appuie le journal en Bamanankan. Avant de se quitter, n'oubliez pas de respecter les gestes barrières contre la COVID-19.